Bonsoir et très heureux de vous retrouver ce soir. L'abbé Apollinaire Malou a démissionné de la présidence de la CENI pour des raisons de santé. Une démission qui a suscité diverses réactions dans l'opinion. En même temps, à la CENI, le dernier rapport accuse le gouvernement de ne pas allouer les fonds nécessaires à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Décryptage dans un peu plus d'un quart d'heure. Et puis, vous le savez, la nouvelle compagnie aérienne nationale, Congo Airways, a inauguré ses premiers vols domestiques. La population attend beaucoup de cette nouvelle compagnie, notamment l'augmentation du nombre d'avions pour susciter la baisse du prix des billets sur le marché. Ce sont là les deux thèmes de la tribune de la presse de ce vendredi 16 octobre 2015. Et les invités dans ce studio, c'est Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Joachim, bonsoir.
Bonsoir.
Innocent Kaboukala, journaliste indépendant basé à Kinshasa. Innocent, bonsoir.
Bonsoir, Béré.
Et puis Georges Kassongo, journaliste à la radio Akizabinadamu, basé au Maniema, à Kindu au Maniema. Georges, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Encore une fois, merci de nous avoir choisis pour mieux comprendre et décrypter l'actualité de la semaine. Et pour commencer, voici la revue de presse qui porte la signature d'Alain Hirung, à qui je dis d'ailleurs bonsoir.
Bonsoir. Cette revue de presse débute par la démission officiellement pour raison de santé de l'abbé Apollinaire Malou de la présidence de la Commission électorale nationale indépendante. Malou jette l'éponge, c'est le titre choisi par la tempête des tropiques pour annoncer la démission du président de la Commission électorale nationale indépendante. Le journal rapporte que, après une longue période d'absence du pays, l'abbé Apollinaire Malou a finalement jeté l'éponge samedi 10 octobre 2015 en démissionnant de son poste de président de la CENI. L'avenir enseigne que pour la Commission africaine de supervision des élections CAS, la démission de l'abbé Malou constitue sans nul doute un coup dur pour le processus électoral, tant il est vrai qu'il est considéré depuis des années comme une bibliothèque, un monument vivant en matière électorale en RDC. Pour sa part, Africa News soutient que la capitulation du président de la CENI était prévisible. Il avait un œuf à appeler avec le parquet général de la République où il était poursuivi pour faux et usage de faux. La succession de Malou est ouverte, annonce le Phare dans sa une du jour. Après le départ de l'abbé Apollinaire Malou de la présence de la CENI, la succession est largement ouverte. Succession de Malou, une équation à multiples inconnues, titre le potentiel. Selon ce journal, les commentaires sur la démission du président de la CENI sont ravivés par le fait qu'elle intervient à un moment où la majorité présidentielle traverse une zone de forte turbulence, marquée notamment par la fronde du G7 et la démission de Moïse Katumbi du PP. Abordant les vols inauguraux des deux Airbus de Congo Airways, l'agence congolaise de presse titre, le président Joseph Kabila assiste aux vols inauguraux de deux Airbus A320 Congo Airways. La coupure du ruban par le chef de l'État symbolisant le lancement effectif des activités de Congo Airways constitue un souvenir mémorable dans l'histoire de la République démocratique du Congo. La prospérité de son côté titre également, finit les élucubrations. Après donc les vols inauguraux effectués avec succès vers Goma et Lubumbashi, la compagnie aérienne Congo Airways annonce le début de ses vols commerciaux à partir de mardi 20 octobre prochain, avec comme première ligne d'exploitation Kinshasa-Lubumbashi. Le coût pour cette destination est fixé au minimum à $260 pour voyager dans ces aéronefs qui garantissent une sécurité maximale. Parmi les autres sujets qui ont fait l'actualité cette semaine, on peut notamment citer la rentrée judiciaire 2015-2016, l'élection au bureau de l'Assemblée nationale, l'ouverture de l'année académique 2015-2016 en RDC et l'ouverture de la 9e session ordinaire de la commission RDC-RSA.
Merci Alain Hirung. Cette semaine, l'actualité était aussi marquée par la présentation de l'annuaire statistique 2014 de la RDC après 20 ans d'interruption. Présenté par le directeur général intérimaire de l'Institut national de la statistique, ce document est produit sous le financement du PNUD et permet de combler le déficit en statistique au niveau national afin de mettre à la portée de tout chercheur des données fiables. Alors Joachim Diana, quelle lecture vous faites de la présentation de cet annuaire?
C'est vraiment une résurrection. Je pense que les gens ne se poseront pas la question pourquoi seulement maintenant? Parce qu'aujourd'hui...
Justement, c'est la question que beaucoup de gens se posent.
Mais lorsque on dit aujourd'hui on a un avion à lac. On ne se pose pas la question pourquoi maintenant. Je pense qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour s'organiser, il y a un temps pour mettre ses finances en ordre, il y a un temps pour monter petit à petit et poser des actions progressives. Et je pense que c'était quand même inacceptable qu'un pays moderne,
comme la RDC,
qu'il n'y ait ni recensement, ni statistique dans tous les domaines. Et vous savez, lorsque les chercheurs ont besoin de quelques données, c'est généralement au PNUD, à la Banque mondiale, et dans les organismes internationaux, qu'on va chercher ces statistiques qui, parfois, ne rendent pas la réalité vraie. Donc, c'est patriotique que l'INS se soit réveillé, qu'il soit ressuscité. C'est un geste à saluer.
Alors, Innocent, est-ce qu'il fallait attendre 20 ans pour publier cet annuaire?
Non, c'est une anomalie. Donc, il faut dire que pour un pays qui se veut organisé, je crois que c'est important, pour des raisons diverses qu'on a évoquées par mon estimé confrère, que nous ayons des données fiables dans tous les domaines pour que les chercheurs puissent exercer, faire leur travail normalement. Mais attendre 20 ans, c'était quand même trop. Et que maintenant, bon, moi je ne me pose pas la question pourquoi maintenant, mais je me dis simplement qu'il faut quand même arriver à normaliser le pays. Et j'estime que à travers cet acte, nous rentrons dans la normalité.
Et vous pensez que la publication de cet annuaire peut contourner la problématique du recensement pour les futures échéances électorales?
Contourner, je ne sais pas, c'est peut-être votre terme, mais le plus important, c'est que avec cette publication, on a la possibilité de trouver peut-être des raccourcis pour parvenir à des résultats qu'on a toujours tant recherchés. Et donc, c'est une facilité en fait, qui s'ajoute à ce que tout le monde a toujours souhaité, bien sûr, par le passé.
D'accord. Georges Kasongo, vous avez suivi aussi cette actualité, la publication de cet annuaire. Comment vous, à Kisangani, plutôt à Kindu, vous avez accueilli cette information?
Oui, nous avons reçu vraiment des bras ouverts. C'est très positif, l'apparition de cet annuaire. C'est un signe vraiment de positivité qui montre que le pays est en train de sortir de son sommeil. Mais à cela, il y a un petit problème qui se pose, c'est de connaître la fiabilité de ces données. Ce ne sont pas des estimations, comment on a procédé. Donc, à part la question de fiabilité des données collectées ou bien mises en place, vraiment, c'est un bon signe, seulement la fiabilité qui peut poser problème, parce que nous sommes au Congo, on n'a pas vu des enquêteurs, nous sommes vraiment à la portée de tout le monde, mais ces enquêteurs-là n'ont pas été perçus, on ne sait pas si ce sont des données qui ont été collectées de quelle manière, par téléphone, est-ce qu'on a déployé les gens sur le terrain. Bon, à la limite de tout cela, nous disons un bon signe, le pays est en train de se normaliser, il est en train de sortir de son...
Alors, puisque vous avez la parole, qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui à Kindu?
À Kindu, l'actualité reste dominée par la polémique au niveau des Ibik centrales de Kindu. Le maire de la ville de Kindu a décidé de hausser les prix des traversées qui est parti de 100 francs à 200 francs congolais, donc du simple au double. La société civile ne l'a pas entendu de cette oreille, alors il y a un problème qui a poussé jusqu'à ce qu'on est allé jusqu'au gouvernorat des provinces. Vous savez que Kindu est coupé en deux par le fleuve Congo. Alors, les carburants qui se vendaient à 2000 francs, les litres 2500 les francs, actuellement c'est 1400. Et le prix de traversée est sorti de 100 francs jusqu'à 200. Vous voyez cette façon de voir les choses, alors ça n'enchante pas la population de Kindu. Vraiment, c'est la plus grande actualité ces derniers temps.
Merci beaucoup. Une autre nouvelle importante cette semaine, elle nous vient du secteur économique. Le FMI, dans sa dernière évaluation annuelle, a indiqué que la République démocratique du Congo excelle en matière de croissance, mais reste à la traîne sur le front de la réduction de la pauvreté. Joachim, que pensez-vous de cette évaluation que le FMI a faite sur la RDC?
En fait, on l'a toujours dit, il faut que les FMI et tous ces gens-là de la communauté internationale aident la RDC. Aujourd'hui, vous savez...
Mais pas quand même à réduire la pauvreté.
Mais écoutez, aujourd'hui, pourquoi nous avons une grande croissance et qu'on n'arrive pas à réduire la pauvreté? C'est parce que cette croissance, c'est des capitaux étrangers qui viennent creuser les mines du Congo, ils rapatrient tout. et pratiques marées. La plupart d'entreprises qui aujourd'hui travaillent au Katanga ont signé le contrat 25 ans, qu'ils récupèrent d'abord leurs capitaux avant que qu'ils commencent à payer significativement à l'État congolais. Il y en a qui payent 1%, 15%, 17%. Donc, cette croissance-là ne peut pas, à ce moment-là, être inclusive.
Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le FMI?
Non, je suis d'accord avec lui, mais... Vous savez, lorsque le gouvernement congolais dit aujourd'hui, je revise le code minier, je revois la participation des entreprises, on va dire non, climat des affaires, non, il faut... Et vous vous souvenez avec l'affaire que Fête Quintum, il y avait même l'FMI qu'on avait même impliqué pour qu'on ne puisse pas atteindre le point d'achèvement. Pourquoi? Parce qu'on avait un litige avec une entreprise canadienne. Donc, je pense que on finira par le jour lorsqu'on va exiger à ce que toutes les entreprises qui extraient le minerai chez nous, qu'ils les transforment sur place afin de créer des emplois et en fait de réduire la pauvreté.
Alors, Innocent, vous pensez aussi que l'évaluation du FMI reflète l'image de la RDC aujourd'hui?
Non, l'évaluation du FMI reflète plutôt les intérêts de ces organisations. Ça n'a rien à voir avec le Congolais.
Mais ça reflète quand même l'image de la RDC. Une croissance en hausse, mais la pauvreté toujours à la traîne.
Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais alors, le problème le plus important ici, c'est que, chers confrères, c'est que, non, il faut... parfois, on se gêne pour rien, c'est comme ça que je vois la traduction avec laquelle mon confrère essaie de répondre. Mais c'est un problème de gouvernement, c'est toujours cette léthargie au niveau de la passivité. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas hausser le ton? Comprendre que, d'une manière générale, lorsque, c'est vrai que les capitaux viennent de l'extérieur, mais... les peu qu'on restitue à la République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous en faisons? Il y a toujours ce problème de bonne gouvernance qui se pose. C'est ce qui explique cette pauvreté qui est accrue. Parce que on ne va pas dire quand même que le FMI n'est visible qu'en République démocratique du Congo, que ces multinationales n'investissent qu'en République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui se passe ailleurs en Zambie, dans les autres pays?
En Angola,
où nous avons des minerais, et où la pauvreté n'a pas atteint le même niveau que la République démocratique du Congo. Donc il y a lieu de regarder, se poser des questions. Donc il y a d'une part, c'est vrai, ça reflète l'image de la République démocratique du Congo, mais la part du gouvernement dans tout cela est à indexer. Parce que le gouvernement a un rôle très capital à jouer dans cette région que rester en train de pleurnicher pour dire que... Parce qu'à la fin, au bout du rouleau, qu'est-ce qu'on dit, c'est que c'est plutôt les gens du FMI, donc ces multinationales qui imposent leurs lois et donc notre gouvernement est faible, mais à partir du moment qu'on brandit chaque fois la souveraineté, mais qu'est-ce qu'on fait de cette souveraineté?
D'accord. Alors, Georges Kassongo, que devrait faire le gouvernement de la RDC pour inverser cette tendance qu'a relevé le FMI?
Voilà, le FMI est clair, mais le FMI n'a pas été explicite. Vous savez, nous sommes parmi les pays qui ont le plus haut taux de croissance en termes de chiffres, mais également la traîne entraîne en termes de la pauvreté. C'est quoi? C'est l'absence de la justice distributive. Nous avons aussi comme cause la répartition inégale des revenus. Imaginez-vous que dans un même pays, en termes de revenus, il y a ceux qui peuvent aller jusqu'à 500 000 dollars par mois et d'autres qui n'ont même pas moyen de trouver 40 dollars par mois. Vous voyez cette tension salariale en termes de revenus. Mais comment on peut sortir de la pauvreté lorsqu'il y a ce que nous disons la répartition inégale? C'est comme les monarchies du Golfe, tu vois bien. Vous avez les familles royales où vraiment les miels et les laits coulent à flot pendant que la population vit dans le désert. C'est ce qui se passe ici. Il fallait inverser la tendance, revoir la tension salariale en termes de revenus annuels. Et ça, nous pouvons y aller. Si les fermiers au moins touchaient 200 000 dollars par mois, ou bien même 50 000 dollars par mois, et que les derniers touchés ne fissent que 1 000, vous voyez que ça allait s'arranger.
D'accord.
Mais lorsque nous avons, dans la majeure partie de la population, est jetée dans la paria, vous voyez ce que ça fait? Donc, il y aura toujours ces problèmes de pauvreté aussi longtemps qu'on n'aura pas résolu les problèmes de la tension salariale en termes de revenus entre ceux qui occupent la haute sphère de l'État et ceux qui sont au pied, de l'État.
Merci beaucoup. Alors, une dernière info rapidement de la semaine. C'est déjà demain, en principe, qu'à l'Assemblée nationale, on va élire les membres du bureau après la démission des membres du G7. Alors, Joachim et Diana, qu'est-ce qui va changer dans la configuration de l'hémicycle à l'Assemblée nationale? Très rapidement.
Bon, mais normalement, il n'y a pas à s'agiter. Il n'y a que 3 postes, je crois, ou 2, qui doivent être remplacés. On a fait une agitation inutile, l'opposition qui demande 3 postes, et tout ça. Il y en a qui vont faire la motion pour que le président tombe, afin que tous les bureaux tombent, qu'on reprenne à zéro. Je pense que ce sont des gens qui sont dans le calcul, ils se disent, oh non, voilà, la majorité a changé aujourd'hui, donc comme l'AMP n'a plus la majorité, on peut faire tomber le secrétaire général de l'AMP à l'Assemblée. Mais je pense que ce sont des calculs qui n'ont pas de sens et que la majorité étant encore solide à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de motion qui passera et que ne seront remplacés que ceux qui ont démissionné.
D'accord, merci. Alors, Innocent, est-ce qu'on peut s'attendre à une modification du rapport des forces au niveau de majorité-opposition à l'Assemblée nationale?
Mais c'est déjà très visible. À voir cette agitation à laquelle fait allusion Diana, donc on comprend qu'il y a cette tendance-là, parce que, quoi que le minimise, le G7, mais c'est quand même 80 députés, plus ou moins jusque-là ceux qui ont déclaré, sans compter ceux, dans leur cœur, qui pourront effectivement, parce que le tout est fonction du climat politique en général.
D'accord.
Parce qu'aujourd'hui, tout le monde commence à faire ses calculs dans le sens, on apprend à gauche et à droite comment les grands dirigeants de la majorité sont en train d'être bousculés, et donc ça ne me surprendrait pas que demain, la tendance soit une réalité. Mais en tout cas, à y regarder de près, vraiment, le rapport des forces devra changer dans les mois à venir.
D'accord. Alors, Georges Kassongo, très rapidement, est-ce que vous pensez que la majorité est menacée par le vote de demain?
Voilà. L'histoire qui est au niveau de l'Assemblée nationale, c'est de constater que les postes vacants seront comblés demain au cours de l'émission, nous pensons comme ça, et au cours de la plénière, nous pensons comme ça, mais ce qui va changer de significatif au niveau de l'Assemblée nationale, c'est les rapports des forces. Il n'y aura plus de passage en force. Parce que nous attendons que jusque-là, que la majorité ou bien la majorité est diminuée, n'a plus la force de faire les quorums pour faire voter des lois. Donc c'est là où nous voyons, cette fois-ci, le contrôle parlementaire sera à l'ordre du jour. Les histoires-là de passage en force, majorité mécanique, nous pensons que ça va tomber. Et là, nous attendons à une assemblée maintenant. Il va travailler au moins parce que les rapports de force est en train de changer au sein de l'hémicycle.
Merci beaucoup. C'est par ici que nous finissons notre tour d'actualité de la semaine. Et tout de suite, nous allons commencer notre premier thème de la soirée. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malumalu, a démissionné de son poste samedi dernier. Selon le communiqué de la présidence de la République lu à la télévision nationale, l'abbé Malumalu quitte la centrale électorale pour raison de santé. Explication avec vous, Suzanne Zobo-Audra.
Le président de la République dit avoir pris acte de cette démission et demande à sa composante de proposer une autre personne à l'Assemblée nationale pour approbation. L'abbé Apollinaire Malumalu avait quitté le pays depuis le mois de février dernier pour l'Afrique du Sud pour des soins médicaux. À son retour au pays en mi-avril dernier, il avait affirmé qu'il se portait bien, mais quelques jours après, il avait quitté le pays pour se rendre aux États-Unis. Officiellement, il a voyagé pour se faire soigner. L'abbé Malumalu avait été désigné président de la CNI le vendredi 7 juin 2013. Il était revenu aux affaires après avoir dirigé la centrale électorale de 2006 à 2011. Pour son deuxième mandat, il avait remplacé le pasteur Daniel Ngoy Mulunda qui avait pris les rênes de la CENI de 2011 à 2013.
Vous venez de nous prendre en cours. Sachez que la Tribune de la Presse reçoit dans ce studio Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa, Innocent Kavukala, journaliste indépendant basé à Kinshasa, et Georges Kassongo, journaliste à la radio Haki Zabinadamou, une radio qui émet à Kindu au Maniema. Alors Joachim, quelle lecture vous faites de la démission du président de la CENI?
En fait, la démission du président de la CENI était prévisible du moment où, selon les informations sur son bulletin de santé, qu'il aurait été opéré d'une tumeur de cerveau. Bon, il pourrait s'en remettre. Peut-être que le travail de président de la CENI lui demandait beaucoup de travail.
Donc vous y attendez, en fait.
Mais on s'y attendait, parce qu'en fait, je crois, nous l'avions dit sur un des médias ici à Kinshasa, que même s'il était guéri, mais il aura besoin de beaucoup plus de repos qu'il en avait maintenant, parce qu'il était toujours entre deux avions, entre des réunions. C'est un travail très harassant, très accablant, et que la santé qu'il aura après cette opération ne lui permettra plus de le faire, sauf s'il s'accrochait pour des raisons autres que réellement professionnelles. Donc la CENI allait en pâtir, mais comme c'est un homme honnête, il a estimé que sa santé ayant décliné de cette manière là, il fallait qu'il rende l'établi et que la République se choisisse un autre président qui pourra se donner totalement pour ce travail qui est de très grande importance.
Mais donc, beaucoup d'analystes se posent la question, pourquoi c'est la présidence qui prend acte alors qu'il fallait attendre que l'abbé Apollinaire lui-même écrive sa note de démission?
Effectivement, le président a pris acte de la lettre de démission de M. l'abbé Apollinaire Malumalu.
Qui n'est pas dans la presse ou sur la place publique.
Est-ce que c'est important que cette lettre-là soit mise à la place publique? Ce n'est pas important. Le président a démissionné. Il a déposé sa démission auprès du président de la République, qui est l'autorité de nomination. Mais le président, respectant la procédure, parce que c'est quelqu'un qui a été élu, désigné par une composante, et puis élu, et puis lui, son ordonnance n'a été que confirmée. Alors, le président a pris acte de cette démission, et il a demandé à la composante, à la procédure de désignation de se mettre en branle afin qu'on puisse arriver à trouver un autre président de la
centrale.
C'est vrai que chaque chose a des conséquences. De même, lorsque j'entends dire qu'il y aura changement des majorités à l'Assemblée nationale, ça a des conséquences. L'une des conséquences, c'est quoi? C'est que le président peut dissoudre l'Assemblée nationale.
D'accord, on y revient.
C'est ça la conséquence.
Innocent, est-ce que vous partagez le même avis que Joachim, qui affirme qu'il s'y attendait, en tout cas, de la démission de l'abbé Apollinaire Malumalu?
Il y a bien des raisons pour le dire. Moi, je ne peux pas penser qu'on s'y attendait, mais je considère plutôt que d'abord, est-ce qu'il y a eu une lettre? Moi, personnellement, je ne l'ai pas lue. Dans les médias, on ne l'a pas circulé. Vous l'avez souligné, donc on ne l'a pas vue. Donc, c'est déjà beaucoup d'inquiétude à ce sujet, parce que c'est quand même une démission toute particulière. Donc, on passe à travers les médias, et puis on a démissionné, on n'a pas écrit officiellement. Et puis, par la suite, lorsque le confrère dit qu'il s'attendait à ça, il a bien ses raisons, mais moi, ce que je vois, c'est
en
que...
En fait, son état de santé, il a parlé
officiellement,
de santé.
Officiellement, on parle de la santé, mais toute maladie, on peut toujours guérir dans la mesure où il est possible, parce que il a été aussi dit que c'était possible que à rapport avec les soins, les types de soins de qualité qu'il a subis, donc il était possible que M. l'abbé, le président de la centrale électorale, puisse s'en remettre et poursuivre son travail. Mais cette démission inquiète quelque peu, parce que je crois savoir qu'il y a plus le paysage politique dans notre pays actuellement par rapport à tout ce que l'on dit autour de la Commission nationale électorale indépendante, donc, qui demande moyens qui n'arrivent pas, la Commission électorale qui se retrouve dans une des difficultés telles que, en toute responsabilité, il était quand même normal que le président puisse jeter l'éponge.
Mais nous allons arriver à ce point.
La question officielle de la santé, carnet de santé, moi je pense qu'il y a plus autre chose. Bien entendu, nous ne sommes pas dans le secret de Dieu, mais en analysant la situation telle que se trouve, je crois qu'il y a plus le paysage politique qui est à la base de cette démission et que le président en prenne acte. Bon,
en tant que citoyen,
il peut prendre acte, mais s'inquiète quand même sur la vitesse avec laquelle il a pris les choses.
Donc, en un mot pour vous, la raison de santé n'est pas justifiable?
On ne peut pas dire qu'elle n'est pas justifiable, mais j'ai quand même du mal à croire que ce soit la seule raison. Mais je pense jusque-là que la pression politique ne pouvait pas permettre à M. l'abbé Apollinaire Malumalu, en tout cas, de poursuivre son travail, parce que vous savez qu'il a été longtemps contesté par rapport à la qualité du travail qu'il produit et aux attentes de la population qui, jusqu'à preuve du contraire, reste sur sa soif quant à la suite des élections. On se souvient encore, et encore une fois de plus, des élections de 2006 qui ont laissé une espèce de goût d'inachevé dans la population, et donc c'était difficile quand même de faire avec un président qui était déjà contesté comme ça.
Alors Georges Kassongo, comment cette information a-t-elle été accueillie dans les milieux politiques de Kindu?
Voilà, à Kindu, la démission de M. Labbé Salomalou est arrivée, accueillie très positivement par la plupart des gens que j'ai eu à côtoyer. Vraiment, ils ont salué le courage de M. Labbé, mais quelque part, il y a aussi des scepticismes du fait qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de ceci. Et il y a même un ami qui aurait argumenté que le troisième millénaire, c'est le millénaire de l'image, de la preuve et de la communication. Est-ce que Malumalu aussi l'a démissionné? Où est sa démission? Des histoires comme ça. Mais dire que Malumalu, bon, selon les commentaires qui vont bon trait, s'il a démissionné, il y a de ceux-là qui prétendent que non, c'est compte tenu de ses accointances très rapproché par rapport au mouvement social pour le renouveau, MPR, qui est passé dans l'opposition. Les gens ont articulé comme ça. D'autres ont dit que non, c'est pour son honneur, parce que la façon dont la CENI est paralysée, le manque, bon, les conditions dans lesquelles on a placé la CENI ne sont pas les conditions à organiser des élections, disons, crédibles, bon. Il y a sous-estimation des capacités, la sous-estimation du temps, tout cela, les gens, vraiment, des commentaires vont bon train. Il serait mieux que la démission, au moins, de M. Labbé Malumalu soit même balancée sur Internet pour que certaines personnes en lisent, pour qu'on ait au moins une idée, parce que nous pensons que la population a droit à l'information et la vraie.
Cette démission du président de la CENI intervient au moment où la CENI a présenté un rapport dans lequel elle accuse le gouvernement de ne pas allouer les fonds nécessaires à l'organisation des élections. Est-ce qu'à Kindu on a réussi à faire ce rapprochement, voir la démission, le rapport de la CENI d'un côté et puis la démission du président de la CENI de l'autre côté?
Oui, à Kindu, comme partout au Congo, on pense de la même façon. Et donc, c'est placer l'autorité, la centrale électorale dans des conditions à ne pas réaliser les élections transparentes. Et semble-t-il, bon. Là, ce sont les commentaires qui vont bon train. Il n'y a pas encore, il y a un document sur lequel on devrait voir l'argumentation, la motivation de la démission. Mais au moins, on dit que la CENI est placée dans des mauvaises conditions, bien dans des bonnes conditions pour organiser les élections chaotiques encore.
D'accord.
Et surtout que nous attendons les livres du pasteur Ngoï Mulunda, les élections chaotiques de 2011, nous pouvons voir la responsabilité en qui incombe. Est-ce que nous sommes dans la même lignée ou bien où sommes-nous? Comment ça avance? Bon. Nous pensons que la démission est motivée par les conditions dans lesquelles la CENI est placée par le gouvernement.
D'accord. Alors, Joachim Diana, vous voyez ce rapprochement que fait Georges Kassongo à partir de Kindu. Votre analyse, elle est comment à ce stade de fait?
Bon, en fait, dans ce pays, il y a les prédigitateurs, il y a les journalistes. Moi, je suis journaliste. Les journalistes, ils travaillent avec des faits. Il peut faire son commentaire, mais jamais remplacer le fait par un commentaire.
Mais il peut analyser aussi.
Oui, il peut analyser.
C'est pour ça d'avoir dans cette tribune.
Et puis, un journaliste ne peut pas attendre à ce que cette lettre à démission. Il n'y a aucun article verrouillé de la Constitution qui dit que quand quelqu'un a démissionné, et il faut mettre sa lettre dans les médias pour qu'on l'exige comme étant intangiblement, on doit donner ça.
Mais quel rapport vous faites avec le rapport de la CENI sur
les élections
et la démission du président de la CENI?
J'en arrive. Il arrive aux journalistes de se battre pour...
Pour avoir
la copie.
Et la preuve.
On ne doit pas la lui mettre dans la rue. Non, nous ne faisons pas notre travail. S'il n'y a pas cette démission, cette lettre de démission dans les médias, c'est que les médias n'ont pas fait leur travail. On ne doit pas toujours chercher la faute des autres. Le gouvernement doit... Le gouvernement,
nous n'en est pas déjà d'accord avec vous.
Et vous, les journalistes, vous ne faites rien. Et le gouvernement doit. Vous, qu'est-ce que vous avez fait pour attraper cette lettre, ne fût-ce que on a demandé la copie à Malumalu? Vous savez même pas où est-ce qu'il est maintenant.
Il est aux États-Unis.
C'est pour dire que la liaison aujourd'hui, vous savez, les gens, qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils arrivent d'abord à dire ils ont créé des conditions des élections chaotiques, et de là on justifie la démission de Malumalu. Ça, ce n'est pas le travail d'un journaliste, mais d'un journaliste. J'ai dit ceci.
Rapidement,
le vrai problème de la CENI, même si aujourd'hui le gouvernement doit lui donner de l'argent, il va lui donner de l'argent pour exécuter quel calendrier?
C'est pour qu'elle travaille.
Vous remettez en cause maintenant le calendrier de la CENI.
Mais le calendrier a été mis en cause. On a Malmal voulait faire un calendrier partiel. On lui a dit non, global.
Mais vous avez soutenu ce calendrier
oui,
de la CENI.
Mais il a fait le calendrier global. Qu'est-ce qu'on a quel accueil on lui a réservé? Non, ce calendrier était trop serré et qu'il fallait un calendrier élastique, et il fallait élaguer les élections locales et qu'on sort. À tel point que le président a dit allons au dialogue pour résoudre tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, le calendrier, même la Cour constitutionnelle a demandé à la CENI de réaménager son calendrier. Mais le gouvernement va lui donner de l'argent pour faire quel travail aujourd'hui.
Par exemple, les élections qui devaient se tenir au mois d'octobre, le 25 octobre.
Mais le calendrier est où de ces élections?
D'accord. Alors,
la CENI elle-même, on lui demande d'organiser les élections de gouverneur. Là où on peut, même avec des papiers, comme nous étions à l'école, on élisait les chefs de classe, les bidets de classe, avec des papiers. Non, il faut 2 millions de dollars pour organiser les élections de gouverneur. Il le ramène au même mois d'octobre où il avait prévu ses élections provinciales.
D'accord.
Moi, je pense que la CENI participe à elle-même à créer des conditions de mauvais travail, par exemple.
Voilà. Alors, innocent votre analyse. Mais je sais pas, déjà que vous n'êtes pas d'accord du tout avec
C'est quand même curieux qu'aujourd'hui on puisse tirer un boulet rouge sur la CENI qu'on a vantée par le passé. Mais non, confrère, comment vous pouvez expliquer des choses comme ça? Vous savez que la Commission nationale électorale indépendante est une institution et c'est une institution officielle, elle est reconnue. Et donc, lorsqu'il y a une question du genre qu'on doit démissionner, mais comment vous pouvez minimiser qu'une lettre ne soit écrite, qu'une lettre ne soit visible réellement, ne serait-ce que l'ordre administratif? Ça, c'est la moindre des choses. Ça, on doit avoir cette lettre de manière officielle. Non, mais reprocher aux journalistes de n'avoir pas été. Mais non, je crois que tout le monde connaît comment ça se fait dans ce pays. Lorsqu'on a une lettre, lorsqu'on écrit, lorsqu'on démissionne, on étudie toujours les médias, on les saisit officiellement et avec des documents officiellement reconnus. Et on le fait et tout le monde est au courant. Mais la manière dont cela a été fait, mais ça m'étonne. Donc c'est ça l'un des faits. Mais aujourd'hui, quand on dit que la CENI décrit la question des moyens, oui, on ne peut pas nier ça, on se souvient tous.
Parce que Georges, il a fait le lien, il a dit que c'est Malumalu a démissionné.
On se souvient, il y a peu, lorsqu'il y a eu des auditions croisées au niveau de la Cour constitutionnelle, la CEDI et puis le gouvernement. Mm-hmm. Le gouvernement avait justifié que sur le plan de la loi de crédit, il n'était pas prévu les fonds concernant les autres élections qu'on avait ajoutées à la suite des événements qui se sont produits par après, notamment
le découpage,
l'élection de gouverneur par rapport aux provinces,
aux nouvelles provinces,
ce n'était pas prévu, et que, de l'autre côté, les élections qui étaient prévues bien avant, il y avait de l'argent pour cela. Mais aujourd'hui, que la CENI dénonce qu'il n'y a pas de l'argent pour ça, donc ce que le gouvernement devait faire, c'était passer et démentir pour prouver qu'effectivement, il y a de l'argent, mais c'est plutôt la CENI qui n'est pas à mesure de faire le travail, comme tente de le dire Diana ici. Parce qu'apparemment, Diana accuse la CENI d'être à la base de tout ça, mais la CENI ne le dit pas par hasard. S'il y avait ces moyens-là, je ne pense pas que la CENI allait donner ces genres d'allégations. Donc, il y a un problème à la fois au niveau de la CENI, je suis d'accord, mais aussi le gouvernement a besoin de nous donner de toute urgence un éclairage à ce sujet. S'il est vrai que déjà il y avait des moyens qui étaient prévus, je me souviens encore de la question qui était, parce qu'on a dit depuis le début de la législature, il y avait au moins 50 millions qui devaient être mis de côté pour le compte des élections. Et cette question est encore pendante, et jusque-là, on n'a pas encore d'éclairage. Mais on attend. C'est comme ça que lorsqu'on nous parlions de l'Assemblée nationale avec des tirs croisés autour du président de l'Assemblée nationale qui serait incapable de gérer la majorité et tout ça, mais on sait que c'est une fuite en avant. On a appris même dans les coulisses que c'est parce que, lors de l'ouverture de la session, le président avait insisté sur le fait qu'il fallait quand même faire la révision des comptes et que au niveau du gouvernement, il se sentait mal à l'aise. C'est pour cela qu'on en veut maintenant au président de l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez déjà le contexte de notre pays et qui fait qu'aujourd'hui, on comprend des démissions
en cascade.
De la manière pour moi inhabituelle, une démission qui se passe par la radio sans jamais faire un écrit, et puis, bon, qu'on va quand même essayer d'avaliser au niveau de la presse. Mais moi, je ne crois pas que
voilà, la presse devait faire son travail. Oui, il y a beaucoup de choses à dire autour de la CENI, mais on va quand même finir avec cette question pour clore ce chapitre. C'est vraiment en un mot, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Avec le dernier rapport de la CENI, comme on vient de l'évoquer, beaucoup d'analystes estiment qu'il n'y aura pas élection en RDC. Qu'en pensez-vous, Joachim?
Pourquoi il n'y aura pas d'élection? Tout ce qu'on demande, et la Cour constitutionnelle l'a dit, c'est de réaménager le calendrier. La CENI devrait se mettre au travail pour présenter un calendrier. C'est un calendrier qu'on attend.
D'accord.
On n'attend pas l'argent.
On attend un calendrier innocent.
Non, mais je crois que d'une manière ou d'une autre, il doit y avoir des élections. Mais je crois que la peur, c'est peut-être le paysage politique actuellement qui peut expliquer cela. Mais les élections, d'une manière, un jour, ça devait y arriver.
D'accord. Alors, Georges Kassongo, quel commentaire rapide vous pouvez donner à ce niveau?
Oui, s'il n'y a pas élection à RDC, nous estimons, au regard des tensions que nous lisons dans les visages des citoyens, qu'il y aura un événement dont le monde se souviendra. Et pour éviter tout cela, il faudrait que les élections aient lieu l'année prochaine.
Merci.
Sinon, nous serons peut-être ceux qui auront la chance et viendront encore dire sur les antennes de la radio Capiton.
Merci beaucoup.
Pour résoudre tous ces problèmes à RDC, il faut que les élections aient lieu l'année prochaine au plus tard.
Merci beaucoup. Alors, on entre directement dans notre deuxième thème de la soirée. Joseph Kabila a procédé la semaine dernière, vous l'avez entendu dans la revue de presse d'Alain Rung, à la coupure du ruban symbolique inaugurant les vols des deux avions de la nouvelle compagnie aérienne Congo Airways à l'aéroport international de Njili. Peu avant, le directeur général de Congo Airways ainsi que le ministre des Transports et Voies de Communication ont présenté ces aéronefs ainsi que la nouvelle compagnie. Explication avec vous, Suzanne Zobo-Odra.
L'un des avions s'est dirigé vers Lubumbashi et Mbujimayi et l'autre vers Kisangani et Goma. Peu avant leur décollage, le directeur général de Congo Airways, Claude Kirongozi, a affirmé que les deux aéronefs ont été mis en circulation en 2008. L'Airbus A320 Patrice Emery Lumumba, qui a pris la destination de Lubumbashi, a atterri dans la capitale cuprifère vers 14h locale. Interrogé, la plupart des Lushois émettent le vœu de voir l'État congolais augmenter l'effectif de la flotte de Congo Airways pour réduire le prix des billets des compagnies aériennes privées. L'Airbus Patrice Emery Lumumba a quitté Lubumbashi à 15h locale, direction Mbujimayi, pour enfin revenir à Kinshasa à 18h10 locale. Quant à l'aéronef Mzé Laurent Désiré Kabila, c'est à 14h20 locale qu'il a atterri à l'aéroport international de Goma sous une pluie battante et au rythme de la fanfare de la police. La relance de la compagnie aérienne nationale présente plusieurs enjeux sur le plan socio-économique au niveau provincial qui est régional, a estimé Julien Paloukou, gouverneur du Nord Kivu. C'est à 15h20, heure de l'Est, que l'avion de Congo Airways s'est envolé pour Kisangani, où la population était mobilisée pour le voir. Il est revenu à Kinshasa à 18h53 local.
Merci beaucoup, Suzanne Nzobo. Il y a aussi beaucoup de choses à dire dans ce dossier, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Joachim Diana, est-ce que vous avez été fier de voir enfin la nouvelle compagnie aérienne nationale dans le ciel congolais?
Ben, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure avec les statistiques, il était anormal qu'un pays aussi vaste que la République démocratique du Congo, un pays qui pouvait avec une compagnie d'aviation se passer même de vol à l'extérieur, parce que nous avons un grand territoire, condition que les gens aient les moyens de voyager par avion. On a perdu l'habitude d'avion. Pourquoi? Parce que il n'y avait pas de compagnie nationale et cela a fait que les étrangers qui ont eu de quelques compagnies avec des avions qualité douteuse, vous savez combien de fois les avions sont tombés à Goma, à gauche, à droite sur les cités, il fallait, et vous allez vous souvenir que Air Congo, pendant tout 30 ans que nous avions eu 30 Air Congo, il n'y avait Air Zaïre à l'époque, il n'y avait aucun accident.
D'accord. Mais il y a quand même des analystes dans le secteur aéronautique qui affirment que les deux avions ne sont pas neufs et qu'ils sont, je cite, bons à la casse. Comment vous analysez cela?
Oui, tout à fait. Ils seraient neufs. Vous savez ce qu'on allait dire? Non, ces avions, on a le coût, on a surfacturé. Mais ici, on n'acceptait absolument rien. On n'accepte absolument rien. Alors, on ne peut pas se contenter des gens qui à tout moment trouvent toujours de quoi à redire, mais qu'ils douteraient même d'eux-mêmes. Alors, ils devraient commencer à douter de leur propre raisonnement.
D'accord.
C'est pour vous dire que l'avion A est de bonne qualité.
Dans les deux avions sont neufs, oui, selon vous.
Il y a pas neuf.
Et que les avions.
Ce sont des avions d'occasion.
Disons que les analystes ont.
Qui sont encore en qualité de bien rouler. Parce que vous savez, il y a des compagnies en Afrique que nous voyons ici qui n'ont pas d'avion, mais qui louent des avions. Lorsqu'on va louer un avion, on ne loue pas un avion, on ne peut pas neuf. On veut un avion qui circule déjà. Et nous, on en a acheté au lieu de louer, donc de faire le leasing.
D'accord. Innocent, malgré la présence de la nouvelle compagnie aérienne nationale, la RDC est toujours sur la liste noire et ne peut pas voler à l'étranger. Comment vous comprenez cela?
Oui, je comprends, mais ce n'est pas quand même du jour au lendemain que la situation va s'améliorer. Les appareils, on les a acquis il n'y a pas longtemps, et donc il faut encore que ces appareils puissent faire une preuve sur dans leur trafic pour que finalement nous puissions quitter cette liste-là. Donc je crois qu'il faudrait peut-être garder un peu son mal en patience pour que finalement on sorte. Mais là, j'aimerais quand même dire quelque chose. Hein. Donc, vous savez, Monsieur Claude Kiongoz, ici, il ne faut prendre que ses propres mots. Donc, ces appareils ont été mis en service depuis 2008. Donc, on va dire au jour d'aujourd'hui, ça fera 7 ans. Donc, 7 ans, on va quand même dire que c'est possible qu'un appareil soit encore en bon état. Et donc, profitons donc de cet état des choses pour pouvoir améliorer. Et les premières choses qu'il faut améliorer, c'est quoi? C'est d'abord la bonne gestion. Nous l'avons dit déjà la semaine dernière dans votre studio ici. La bonne gestion au niveau des finances, pour pouvoir penser à rajouter, de manière à ce que nous ayons finalement des lésances hein, à ce qui concerne le voyage pour ce pays.
Mais pourquoi, selon vous, toutes les actions finalement du gouvernement sont sujettes à des redites?
Non, mais parce que tout le problème, c'est que le gouvernement, ça fait beaucoup de temps que nous étions plus habitués à des mauvaises choses. Et ce qui fait que les petites choses qui sont bonnes pourtant, qui commencent à venir beaucoup plus tard, ne peuvent pas tout de suite trouver un terrain préparé pour pouvoir accueillir à bras ouverts. Donc il faut considérer cet aspect des choses. Donc un tout petit élément que je voudrais peut-être ajouter, c'est que en ce qui concerne la politique de prix, il faut qu'on essaie d'habituer déjà la population à des prix réels. Parce que quand on parle de 260, ce n'est toujours pas nécessairement vrai, parce qu'on sait comment ça se passe, parce qu'on n'en a pas donné. Quand on dit 260, c'est quand? Est-ce que c'est la veille ou c'est les deux semaines habituelles qu'il faut acheter ce billet-là?
D'accord.
C'est une chose. Donc moi, j'aurais souhaité peut-être que l'on commence pour y aller avec 200 et que dans les 2-3 jours qui vont suivre le jour prévu pour son voyage, bon, si on se présente à ce moment-là avec 260, ça marcherait. Parce que jusque-là, c'est un peu cher à mon avis.
Alors Georges Kassongo, comment chez vous à Kindu, vous avez analysé le vol inaugural de Congo Airways?
À Kindu, on n'a pas eu le temps vraiment pour faire un tour d'opinion, mais à titre individuel, je peux dire que j'ai qualifié tout cela de problème de gestion, un véritable manque à gagner. Imaginez-vous qu'un avion quitte Kinshasa, Goma, Kisangani et retour, ça représente combien en termes de revenus? Kinshasa, Mbujimayi, Lubumbashi et consorts, où est-ce que tout cela représente? Or, les entreprises doivent être gérées comme des entreprises privées. Nous avons comme l'impression que Congo Airways, au lieu d'être un instrument de production, commence à devenir un outil de propagande. Et cela, dans la gestion de la chose, nous estimons que ce n'est pas la meilleure des façons pour agir.
D'accord. Alors, Innocent, plutôt. Alors, Georges, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Pour conclure, est-ce que vous pensez que cette compagnie peut susciter la baisse des prix des billets d'avion?
Oui. Certainement, il y aura baisse des prix d'avion, c'est une bonne chose. D'ailleurs, Congo Airways, c'est une bonne chose pour notre pays, mais nous ne cesserons jamais de dire ce qui va annuler les efforts pour Congo Airways, tout ce qui va annuler l'existence de Congo Airways. Nous ouvrons les yeux pour que les anciennes pratiques ne puissent plus revenir chez Congo Airways. Nous souhaitons bonne vie, Congo Airways va réduire sensiblement les prix du billet et vous voyez que les choses vont bien marcher, mais à condition qu'on essaie de gérer autrement que par le passé.
Merci. Alors, pour conclure, Joachim Diana, est-ce que cette compagnie peut susciter de l'émulation dans le ciel congolais?
Oui, avant humiliation, ceci c'est d'abord été une nécessité pour qu'un pays comme la RDC ait une compagnie d'aviation. Mm-hmm. Et aujourd'hui, avec deux aéronefs qui seront bientôt renforcés, il y en aura six autres. Bon, je pense que c'est une bonne chose et que le marketing qu'on a fait, c'était une façon aussi. Mais quand on ne fait pas le marketing, on se plaint qu'on aurait voulu faire le marketing avec la lettre de Malumalu, mais avec des avions, on ne vous le montre pas que voici les avions qui sont arrivés.
Merci.
Je ne sais vraiment pas ce qu'on veut.
D'accord. Alors, il nous sort rapidement pour conclure.
Oui. Alors, pour conclure, moi, j'aimerais dire qu'il ne faut pas qu'on reste encore dans les mêmes habitudes, hein, comme par le passé, d'ailleurs, avec les compagnies privées. Parce que généralement, c'est toujours les lignes Kinshasa-Lubumbashi, Kinshasa-Mbujima. Les autres lignes sont, dans la plupart des cas, négligées. Alors, il ne faut pas qu'on revive la même chose que nous décrions avec Transco. Parce que Transco, jusque-là, on ne sait pas si, effectivement, c'est vraiment une compagnie de l'État.
Merci beaucoup et c'est la fin de la tribune de presse de ce soir. Jean-El Mokondo était à la prise de son. Alain Rung a coordonné cette émission supervisée par Pelé Kipela Mondo. Derrière ces micros, c'était Berry Franklin Luchaka qui vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine dans la tribune de la presse et surtout, retrouvez votre émission sur le site www.radiocapi.net.